Bienvenue sur Europe 1, il est 6h.
Je pense que l'OTAN aujourd'hui est dans une situation qui nécessite une très grande clarification stratégique.
L'ouverture aujourd'hui du sommet de l'OTAN à Bruxelles avec le retour des États-Unis dans la coalition. Pour Emmanuel Macron, il est désormais temps que tous les pays membres travaillent ensemble. Dans ce journal, le début d'une nouvelle ère en Israël après l'annonce d'un nouveau gouvernement et la mise à l'écart de Benjamin Netanyahou. La suite du procès du meurtrier de Julie Dwib en Corse et puis l'art abstrait américain de l'après-guerre exposé à Nantes jusqu'à la mi-juillet. C'est un partenariat européen.
La page des sports à suivre et mon invité inattendu alors que le festival du film d'animation s'ouvre à Annecy. C'est une voix qui sera avec nous dans un quart d'heure, une voix d'enfant, la voix d'un personnage de dessin animé bien connu. C'est parti, bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après le G7 en Angleterre, place au sommet de l'OTAN à Bruxelles aujourd'hui. Deuxième étape de la tournée européenne de Joe Biden. Après quatre années quelque peu tendues sous l'ère Trump, ce sommet marque le retour des États-Unis dans la coalition. Et maintenant, Isabelle Horry, l'enjeu pour les Européens, c'est de savoir s'ils se rangent derrière les États-Unis ou s'ils affirment un peu plus leur autonomie.
Oui, c'est clair qu'Emmanuel Macron, lui, veut que les Européens parlent d'égo à égo aux Américains. Il veut un vrai partenariat, pas le retour du grand frère. D'ailleurs, le président a lancé quelques piques ces jours derniers, par exemple sur la Chine, que les États-Unis voudraient faire identifier comme le nouvel ennemi commun. La Chine n'est pas dans la géographie atlantique, ou alors ma carte a un problème, a-t-il fait remarquer lors d'une conférence de presse. Mais pas sûr que ces velléités d'indépendance soient trop du goût des autres Européens, de l'Allemagne notamment. Soulagés, ils veulent d'abord savourer le retour américain. Effacer le traumatisme Trump. En 2018, lors du précédent sommet de Bruxelles, il avait provoqué un esclandre. Contraste, Joe Biden lui a dès hier réaffirmé que la défense d'un allié attaqué restait une obligation sacrée pour les États-Unis. En tout cas, lors de cette journée, les dirigeants doivent jeter les bases du futur concept stratégique de l'Alliance. Quels sont ses nouveaux ennemis? Le cyber, le terrorisme, la Chine, la Russie? C'est le sommet des retrouvailles, mais il y aura du fond aussi.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Des scènes de liesse hier soir en Israël, à Tel Aviv. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour célébrer l'éviction du pouvoir de Benjamin Netanyahou.
Après 12 ans de règne, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le pays. Le Parlement a voté pour entériner une coalition du changement, un gouvernement qui réunira des partis de gauche, du centre, de droite ainsi qu'un parti arabe. Et c'est le chef de la droite radicale, Naftali Bennett, qui deviendra le nouveau Premier ministre. Écoutez.
Pour que le gouvernement fonctionne, nous devons tous maintenir la retenue et la restriction concernant les aspects idéologiques. Voilà ce que dit Naftali Bennett.
Mais alors, cette nouvelle coalition pourra-t-elle vraiment agir en profondeur sur le pays et même se pencher sur la question du conflit israélo-palestinien? Écoutez la réponse de Frédéric Ancel, géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient, invité du 18-20 de Wendy Bouchard hier soir.
On n'a pas grand-chose à attendre sur ce volet-là pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, la coalition est beaucoup trop hétéroclite, donc oui. Elle va s'occuper de social, elle va s'occuper de budget, ce qui n'est pas rien, hein. Elle va s'occuper de la voirie, des investissements, dans une certaine mesure de la diplomatie, mais certainement pas du dossier israélo-palestinien, parce que là, effectivement, il y a trop de différences entre les 8 partis qui composent cette coalition.
Frédéric Ancel, au micro de Wendy Bouchard, hier soir sur Europe 1. De son côté, Benjamin Netanyahou assure qu'il restera en politique et sera de retour bientôt au pouvoir.
6h04 sur Europe 1 en France, la suite du procès du féminicide de Julie Dwib, tuée par son ancien compagnon il y a 2 ans.
Mais l'accusé continue de nier la préméditation, alors que ce jour-là, il est allé armé chez la victime et qu'il a tiré au moins 2 fois la touchant mortelle. Tellement au thorax. La journée d'aujourd'hui sera consacrée à sa personnalité et l'avocat de la famille de Julie Dwib espère qu'enfin, il va dévoiler la vérité. Maître Jean-Sébastien de Casalta.
C'est quelqu'un d'extrêmement froid, dépourvu d'émotivité. M. Garcia a préféré s'enfermer dans cette posture du déni et qu'il est encore temps pour lui de dire la vérité, de s'expliquer, d'expliquer par exemple qu'il était envahi par la jalousie, que cette jalousie était terrible et qu'il n'arrivait pas à se dominer, qu'il n'arrivait pas à la contrôler et qu'il en était arrivé à traquer la mère de ses enfants, à la poursuivre, à la pourchasser, à la menacer, à la harceler, à la violenter psychologiquement, physiquement. S'il pouvait le dire, s'il pouvait lâcher quelques mots qui puissent nous permettre de comprendre ce qui a pu l'habiter au moment de ce geste. Je crois que cela permettrait effectivement d'éclairer un certain nombre de zones d'ombre.
Des propos recueillis par Marion Dubreuil.
On en vient à ce geste de l'Élysée pour les jeunes, geste qui se transforme en casse-tête pour les missions locales.
Europe 1, vous le révélez début mai, Emmanuel Macron doit annoncer prochainement une garantie jeune universelle, 500 euros en échange d'un accompagnement obligatoire pour l'emploi. Jean-Rémy Baudot, vous suivez ce dossier. Ce dispositif, qui pourrait être généralisé, suscite pas mal d'inquiétudes, notamment du côté du ministère de l'Économie.
Oui, et c'est bien cette généralisation qui crée des sueurs froides à Bercy. Objectif, 700 000 à 1 million de bénéficiaires. Les calculettes ont chauffé et une note du ministère de l'Économie parle d'une dépense de 2,4 milliards d'euros par an. Un chiffre qui ne comprend pas les coûts d'accompagnement. Une dépense massive et des questions sur les effectifs nécessaires. Un ministre à Bercy pense que les missions locales n'auront jamais les salariés suffisants pour accompagner autant de monde. On risque une dilution de l'encadrement des jeunes, dit-il. Il faudra en urgence former des formateurs. Pas de quoi impressionner d'autres membres du gouvernement. Selon nos informations, la montée en puissance du dispositif est actuellement étudiée par un énarque qui pilote l'ensemble. Le coup de pression de Bercy pourrait-il fragiliser le projet porté par Elisabeth Borne ? A priori non, car tous les ministres que j'ai pu interroger, qu'ils soient pour ou contre ce dispositif, tous s'accordent sur un point. C'est Emmanuel Macron qui tranchera et le signal politique qu'il recherche avec cette garantie jeune universelle dépasse largement le coût de cette mesure.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Vous restez avec nous dans quelques instants. L'abstraction américaine mise à l'honneur du musée d'art de Nantes. On vous y emmène dans quelques secondes. À tout de suite, il est 6h07.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
6h08, la suite du journal Sophie Echen.
Et une idée de sortie pour les amateurs de peinture au musée d'art de Nantes. Une exposition consacrée à l'abstraction américaine de l'après-guerre. Un avant-goût de la visite avec Diane Chenouda.
Le sable ocre d'un côté, puis la mer au bleu profond de l'autre. C'est une vision abstraite de la plage d'Antibes, vue d'avion. Un des tableaux de ces nombreux artistes américains venus en France au lendemain de la guerre. Comme Sam Francis, grand maître de l'abstraction américaine, ou Joan Mitchell, la célèbre peintre très inspirée par la nature à Giverny et par Paris. Sophie Lévy, la directrice du musée d'art de Nantes.
Quand vous regardez l'œuvre, vous êtes frappé par le côté explosif, puissant des traits. Puis tout d'un coup, vous distinguez une forme qui évoque les fontaines anciennes de Paris.
Le point commun de tous ces peintres, c'est l'art du jaillissement, des couleurs vives et leur liberté.
C'est la libération, hein, c'est vraiment l'époque de la libération, donc une libération aussi des artistes et de la possibilité de créer. Cette exposition est parfaite pour sortir de sa cabane. Ces artistes étaient tout jeunes, qui sortaient de la guerre, pleins d'espoir. Et je trouve qu'il en reste quelque chose de très positif. Enfin, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait à moi.
Et oui, ça fait du bien, toutes ces couleurs, en ce moment, comme un retour à la vie.
Diane Chenouda du service culture d'Europe 1, United States of Abstraction, une exposition Europe 1 à découvrir au musée d'art de Nantes jusqu'au 18 juillet, et puis à Montpellier au mois d'août.
Voilà pour ce conseil. Merci à vous, Sophie Echen, 6h10 sur Europe 1. Et on passe au sport avec Aurélien Fleureau et à la une de votre journal des sports, l'Euro de foot. C'est aujourd'hui que les Bleus quittent Clairefontaine pour Munich.
Oui, pour disputer demain soir à 21h le premier gros choc de la compétition. France-Allemagne, les champions du monde 2018 face à ceux de 2014. Les Bleus qui pourront compter sur tout le monde. Benzema et Griezmann sont rétablis. Et pour compléter ce trio offensif, l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, il était en conférence de presse hier après-midi. Il a tenté de désamorcer tout début de polémique avec Olivier Giroud qui s'était plaint de ballons qui ne lui arrivaient pas. Pas un mot sur son avenir à Paris ou ailleurs, mais en revanche, il a répondu à ceux qui lui reprochent de ne pas toujours faire assez d'efforts sur le plan défensif.
Si j'ai pas envie de courir, autant pas jouer. Hein. Déjà, j'ai aucun problème avec les critiques qui sont dans le jeu. Je sais que voilà, je suis pas le plus irréprochable défensivement. J'essaye de m'améliorer au quotidien et voilà, j'essaye vraiment d'aider mon équipe au maximum, de faire de mon mieux. Après, c'est pas parfait. Je suis pas un joueur parfait. Je pense qu'on a tous des défauts et des points faibles. C'est pour ça que j'essaie de travailler au quotidien à propos de ces sujets-là.
Kylian Mbappé avec Cyril de la Morinerie, France-Allemagne, demain 21h à suivre sur Europe 1 autour de Lionel Rousseau. Côté résultat, hier, l'Angleterre a battu la Croatie 1-0, succès 3-1 de l'Autriche face à la Macédoine du Nord. Et les Pays-Bas se sont imposés sur le fil 3-2 contre l'Ukraine.
Le foot toujours avec une autre compétition majeure qui débute, la Copa América.
Oui, le Brésil vient de réussir son entrée en lice hein, cette nuit, victoire 3-0 face au Venezuela grâce notamment à un but de Neymar. La nuit prochaine, place à l'Argentine de Messi qui va affronter le Chili.
Roland Garros, c'est donc terminé et c'est Novak Djokovic qui est sorti vainqueur de son duel avec Stefanos Tsitsipas.
Une bataille en 5-7 remportée par le numéro 1 mondial alors que le grec Tsitsipas avait pourtant gagné les deux premières manches. Mais une fois le rouleau compresseur Djoko en route, il a été inarrêtable et il a remercié le public en français.
Qu'est-ce que je peux dire? C'est un rêve qui s'est réalisé encore une fois. Merci beaucoup. Merci.
Et c'était donc la deuxième victoire à Roland-Garros pour le Serbe, 19e titre en Grand Chelem. Wimbledon, ça commence dans 2 semaines, et là, il pourrait égaler les 20 succès de Nadal et Federer.
Et il bat déjà un record, Novak Djokovic, parce qu'il est le seul de l'histoire à avoir gagné 2 fois tous les tournois du Grand Chelem.
Exactement.
Les 4, 2 fois chacun. Plus de 2 fois chacun. Merci à vous Aurélien Fleureau. À tout à l'heure, il est 6h12 sur Europe 1.
Europe 1.
C'est chaque année la grande fête du dessin animé. Le festival du film d'animation d'Annecy s'ouvre aujourd'hui, 60e édition. Il y aura du public dans les salles après une édition en ligne l'année dernière. Et aussi une exposition notamment consacrée à Michel Oslo. C'est le père de la trilogie Kirikou. Kirikou que connaît bien mon invité inattendu du jour. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Roman Berux. J'ai eu la chance de prêter ma voix à Kirikou pour Kirikou et les hommes et les femmes. Et je suis ravi d'être là avec vous ce matin.
Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. La voix de Kirikou en 2012, c'était dans le troisième volet. Vous allez nous raconter cette expérience parce que vous étiez très jeune à l'époque. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Kirikou n'est pas plein, mais il est vaillant.
L'invité inattendu du 5-7 ce matin, eh bien c'est la voix de Kirikou, cette série de dessins animés signée Michel Oslo, qui est à l'honneur du Festival du film d'animation d'Annecy cette semaine. Roman Berux, c'était vous, la voix de Kirikou dans le troisième volet. À l'époque, vous étiez enfant, hein, comme le personnage, vous avez quel âge?
J'avais 9 ans et quand c'est sorti, 10 ans et demi, oui, j'étais assez jeune.
Comment ça s'est passé? Racontez-nous cette expérience. Déjà, comment vous avez été choisi?
Alors, à l'époque, je tournais déjà depuis petit, et donc j'avais été envoyé par mon agent sur ce casting, je pense qu'il a fait rêver tous les jeunes acteurs à l'époque. J'ai eu l'envie absolument de pouvoir interpréter Kirikou. Kirikou, je suis né avec, c'est ma génération, c'est la génération de beaucoup de monde, et donc j'ai passé le casting avec une directrice de casting formidable, avec qui ça a vraiment très bien marché, et j'ai été recontacté par la suite par Michel Oslo, qui m'a envoyé un mail en me disant qu'il était intéressé par mon profil, mais je souligne bien le mec, il y avait quand même du travail, notamment parce qu'il trouvait que j'avais un accent parisien, j'avais l'accent parigot trop prononcé, j'avais du mal à prononcer les cheux pour les fétiches. Il voulait aussi que je travaille sur ma manière de prononcer Caraba, parce que c'était très important, Madame
C'est
Caraba.
C'est le nom de la sorcière.
Exactement, donc ça a été beaucoup de boulot, mais je pense qu'au final, avec beaucoup de travail, c'est ça qui a fait pencher Michel Oslo.
Mais qu'est-ce que tu fais là?
Je suis venu te sauver.
Où est-il?
Moi je sais.
Bien sûr, monsieur, je sais tout.
Alors, c'est qui?
Kirikou.
Vous savez encore la faire, la voix de Kirikou? Alors évidemment, depuis vos 9 ans, votre voix a dû changer, mais...
C'est une question, c'est marrant parce que... Après avoir fait Kirikou, donc j'étais au collège, tout le monde venait vers moi, donc personne me connaissait en tant que Roman, tout le monde me connaissait en tant que Kirikou, et souvent les enfants me demandaient fais la voix de Kirikou, mais le truc c'est que avec la sortie, puis j'ai commencé à muer, ça a toujours été super compliqué de faire Kirikou, même si j'aurais bien voulu, mais comme vous pouvez l'entendre, je pense que j'ai plus vraiment la même voix, mais je me souviens de certains passages par cœur.
Alors Kirikou, c'est cet enfant d'un village d'Afrique terrorisé donc par la sorcière Caraba, enfin lui, le village est terrorisé parce que lui il n'a peur de rien, Kirikou. C'est votre cas aussi?
C'est pas mon cas, je dirais. Je pense que j'aurais bien aimé être Kirikou. Je pense que j'ai toujours eu une forme d'admiration pour ce personnage parce que c'est un personnage qui a tellement de valeur, qui est vaillant, qui est astucieux. En fait, Kirikou, c'est un peu un personnage, il est très petit, mais il résout les problèmes des grands. Donc je pense que j'aurais vraiment aimé être comme lui, mais malheureusement, moi, il se trouve que je peux avoir peur de beaucoup de choses. Donc,
en tout cas, Roman Berux, vous n'avez pas eu peur d'aller jouer dans une série américaine avec un rôle en anglais, la série Outlander, on peut vous voir sur Netflix. Comment ça s'est passé? Vous étiez déjà bilingue ou vous avez appris l'anglais comme ça?
En même temps, à la sortie de Kirikou, je suis rentré en section européenne et j'ai eu la chance de pouvoir apprendre l'anglais plutôt pas trop mal. Et en fait, le casting s'est fait à Paris, le casting d'Outlander s'est fait à Paris. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire à Paris, puis être sélectionné et partir en Écosse pendant presque 2 ans. Et là-bas, ça a bien consolidé mon anglais, ouais, effectivement.
Quels sont vos projets aujourd'hui? Cette série, elle peut vous ouvrir les portes d'Hollywood?
Cette série, est-ce qu'elle peut m'ouvrir les portes d'Hollywood? J'espère, mais c'est tellement compliqué. Déjà, mon projet, c'est de... je pense que je suis un peu un acteur en construction. Donc, on essaye de continuer, même s'il y a eu le Covid et beaucoup de choses. Mais là, je sens que les choses rouvrent. Donc, ça fait plaisir. Il y a des opportunités. J'attends des réponses pour des futurs films, là. Donc, je suis assez excité. Puis même dans les prochains... En tant que jeune comédien, si je peux dire, j'espère conserver les valeurs de Kirikou. Ça serait une bonne morale.
J'ai lu que vous rêviez de tourner avec Tarantino.
J'adorerais. Ah oui, c'est marrant que vous ayez vu ça. Oui, bah oui. Qui ne rêverait pas en même temps? Mais il y a tellement de réalisateurs, il y a tellement de personnes avec qui j'aimerais tourner que...
Bon, bah écoutez, on vous le souhaite. Et ce matin, on avait envie de rendre hommage à Kirikou, puisque son réalisateur, Michel Oslo, est à l'honneur donc, du Festival du film d'animation d'Annecy qui démarre aujourd'hui. Merci, Roman Berux.
Merci à vous. C'était
bonne journée.
Sympa. Merci beaucoup. Également. Au revoir.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h20 sur Europe 1 à la une de l'actualité ce matin. Il y a la fin de l'ère Netanyahou en Israël. Le Parlement a validé hier soir le nouveau gouvernement de coalition. Naftali Bennett, chef de la droite radicale, devient le nouveau Premier ministre. En France, l'ouverture aujourd'hui à Douai du procès en appel de Willy Bardon, condamné en première instance à 30 ans de prison pour le viol et le meurtre d'Élodie Kulik en 2002. Willy Bardon continue de clamer son innocence. Et puis après 4 ans de service, le général Lecointre va quitter son poste de chef d'état-major des armées. Il sera remplacé par le général Thierry Burkard, actuel chef d'état-major de l'armée de terre. Et le son de Jamiroquai à suivre, la partition d'Omblin Roche, 6h21.
Europe 1.
Il est 5h24 sur Europe 1, c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche et nous repartons au début des années 90. On se souvient de la tornade Britpop avec les têtes de proue, Blur, Oasis. Et au même moment, des petits malins organisent une contre-programmation nettement plus groove. Omblin, ils ont la bonne idée d'associer le funk et le jazz. Le genre est baptisé Acid Jazz et trouve une résonance internationale grâce au groupe qui nous intéresse ce matin, Jamiroquai.
Dès le premier album, Sébastien, il endosse le rôle de leader du mouvement, sans en être d'ailleurs le précurseur. Jamiroquai, c'est surtout son leader, Jason Kay, avec son drôle de chapeau enfoncé sur la tête. Comme le veut le principe de l'acid jazz, Jackie remet la basse et les cuivres au centre de la partition.
J.K. nourrit une passion pour la soul et le funk depuis son enfance.
Oui, depuis qu'il suit sa mère chanteuse dans les clubs londoniens. Ce que j'aime dans le funk, dit-il, c'est bouger, danser. C'est un peu comme ça que j'ai découvert la musique avec Earth, Wind & Fire ou James Brown, ce que j'écoutais quand j'avais 17 ans et que je gaspillais ma jeunesse. Oui, après quelques années de galère dans la rue, entre les petits boulots et les deals de drogue, J.K. tente sa chance au milieu des années 80, passe un casting pour devenir le chanteur des Brand New Heavies. C'est un groupe pionnier d'acid jazz. Sa prestation ne passe pas inaperçue, mais c'est la chanteuse Jane Kincaid qui lui est préférée.
Après cet échec, J.K. décide de monter son propre groupe.
Voilà, il rassemble quelques musiciens, l'image de sa musique qui fusionne funk et jazz. J.K. choisit pour le nom de scène de marier les mots jam, comprenez improvisation dans le vocabulaire jazz, et Iroquois pour sa passion de la culture amérindienne. Il dessine le logo du groupe Jamiroquai, le Buffalo Man, ce petit bonhomme avec sa grande coiffe et ses cornes.
C'est son truc, hein, les chapeaux bizarres.
Oh oui, avec des plumes en fourrure type Borsalino ou bonnet péruvien.
Après quelques années passées à animer les piano-bars, Jamiroquai enregistre son premier single. Nous sommes en 1992.
Oui, et au sein du label Acid Jazz Records, cela attire immédiatement l'oreille des producteurs de Sony. Et on imagine leur étonnement lorsqu'ils ont découvert dans leur bureau un jeune chanteur blanc anglais alors qu'ils s'attendaient à signer avec une chanteuse afro-américaine. Rapport à la voix, hein, Jamiroquai s'engage pour un contrat de 8 albums avec Sony. Le premier, Emergency on Planet Earth, sort le 14 juin 1993.
1993, When You're Gonna Learn, c'est l'un des premiers gros succès de Jamiroquai, le premier.
C'est même le premier single, avec son message écolo, extrait de l'album Emergency on Planet Earth, premier album, Urgence sur la planète Terre.
Ouais, Urgence sur la planète Terre, enfin, Jamiroquai, ensuite on l'a vu collectionner les voitures de sport, il n'était pas forcément en ligne totalement avec les messages de cet album.
Les contradictions.
À demain. Merci. Et Laurent Cabrol, c'est du beau partout.
Oui, c'est du beau partout, avec un point commun entre Nice, Biarritz, Caen et Marseille. Quel est ce point commun ? Eh bien, ce sont des villes de bord de mer. Résultat, ce sont des villes où il fera le moins chaud cet après-midi, entre 25 et 26 degrés. C'est supportable et c'est très agréable. Nous aurons 29 degrés à Lille, là on s'éloigne, 29 à Épinal, à Nancy, 30 à Colmar et La Rochelle, à Rennes, Paris, Clermont-Ferrand, Angers, Poitiers, Limoges et Bourges, entre 31 et 32, 33 à Lyon, 35 à Toulouse, 36 à Castellet, Nodari et à Bordeaux. Bref, ce sont des températures en général qui sont assez fortes, mais sans trop. Et nous aurons demain et après-demain probablement encore beaucoup plus chaud. Les températures ce matin se situent entre 14 et 25 degrés, 25 à 7 par exemple. Et nous aurons par ailleurs une région parisienne autour de 17 degrés. Bon voilà, tout cela est bien agréable à dire, chers amis. C'est vrai, il n'y a rien d'autre à ajouter, sinon que nous aurons ce type de temps jusqu'à mercredi. Et là, on en reparlera tout à l'heure parce que ça va se gâter.
25 degrés à 7, c'est là maintenant à 6h du matin.
Oui,
6h30 du matin. Très bien. Oui, il fait bien chaud. Ouais. À tout à l'heure. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Votre journal, il est 6h30.
Reproche des faits que j'ai jamais participé. Comme je dis toujours, j'ai rien à voir là-dedans. Aujourd'hui, je suis prêt à parler pour expliquer que c'est pas moi, tout simplement.
Willy Bardon, à quelques heures de son procès en appel dans l'affaire Élodie Kulik, 19 ans après les faits, l'accusé s'exprime publiquement. Qui est le général Burkhard, futur chef d'état-major des armées, poste ultra sensible et au plus près du politique? Et puis Novak Djokovic, affamé de victoire, il veut s'inscrire seul tout en haut de l'histoire du tennis.
Après le journal, le premier sommet de l'OTAN de l'ère Biden. L'Amérique est de retour, dit le président américain. Mais pour faire quoi? Quels objectifs pour l'Alliance Atlantique qu'Emmanuel Macron disait en état de mort cérébrale l'an dernier? Le décryptage avec mon invité, l'expert Bruno Tertrais de la Fondation pour la Recherche Stratégique, dans 10 minutes. Sur Europe 1, bienvenue à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'affaire nous ramène un soir de janvier 2002 dans la Somme. Élodie Kulik, directrice d'agence bancaire, appelle les secours. Sa voiture vient d'être projetée dans un fossé. Les pompiers entendent ses cris et plusieurs voix d'hommes. Son corps sera retrouvé deux jours plus tard, en partie brûlé. Des années après, on identifiera un homme par son ADN, mais il était mort entre-temps dans un accident de voiture. Quant à Willy Bardon, plusieurs témoins affirment reconnaître sa voix sur l'enregistrement du coup de téléphone.
En novembre 2019, il était condamné pour viol, enlèvement et séquestration suivi de mort. Il avait aussitôt avalé un produit pesticide en plein tribunal. Aujourd'hui, alors que s'ouvre son procès en appel, il a choisi de s'exprimer publiquement. Lionel Gougelot.
Willy Bardon affirme que s'il a tenté de se suicider à l'énoncé du premier verdict, c'est parce qu'il ne supportait pas d'être accusé d'un crime qu'il assure ne pas avoir commis. Un an et demi après, il dit avoir retrouvé la force de combattre pour clamer son innocence et tenter de démontrer qu'il n'a pas participé au viol et au meurtre d'Élodie Kulik.
On me reproche des faits que j'ai jamais participé. Comme je dis toujours, j'ai rien à voir là-dedans. Aujourd'hui, je suis prêt à parler pour expliquer que c'est pas moi, tout simplement. Et de faire voir aux gens que tout ce qui m'a été reproché, c'est faux.
Pourtant, plusieurs témoins ont formellement reconnu sa voix au milieu des hurlements d'Élodie dans l'enregistrement de l'appel aux pompiers qu'elle avait passé quelques secondes avant son agression. Alors, la protestation d'innocence de Bardon ne fait pas douter Jackie Kulik, le papa d'Élodie.
Bon, vous savez, personne n'est dupe. Hein. Il a beau essayer de paraître, hein, ses avocats ont beau essayer de le faire passer pour quelqu'un de respectable, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute. Et j'ose espérer que cette fois-ci, le traitement sera encore plus sévère. Moi, je demande la perpétuité.
Remise en liberté après le premier procès, Bardon a été réincarcéré il y a quelques jours pour violation de son contrôle judiciaire. Il avait contacté l'un des témoins au procès. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et ce procès doit durer jusqu'au 2 juillet.
Changement de képi à la tête de l'état-major français. François Lecointre va céder sa place à la mi-juillet au général Burkhard.
Il y aura donc eu 3 chefs d'état-major des armées au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron après Pierre de Villiers qui avait démissionné en 2017. Louis Dragnel, ce changement peut-il fragiliser le lien entre les armées et l'exécutif ?
Eh bien non, parce que le général Thierry Burkhard est clairement l'homme de la situation. Premièrement, parce qu'il s'est préparé depuis plusieurs mois à devenir le patron de toutes les armées de terre, de l'air et de la marine. Ensuite, c'est un atout, le général Burkhard, qui est aujourd'hui chef d'état-major de l'armée de terre, a travaillé par le passé à l'Élysée. Il connaît parfaitement les relations complexes entre le pouvoir politique et les militaires et il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, tout en restant évidemment loyal. À noter aussi que ce légionnaire de 56 ans a été porte-parole des armées, autant dire qu'il connaît parfaitement les enjeux de la communication. Pour terminer, le général Burkhard a une vision stratégique. Il est d'ailleurs convaincu qu'après s'être modernisé et professionnalisé, l'armée française doit entamer une nouvelle phase. Pour lui, face au durcissement des relations internationales, il faut que les forces françaises augmentent leur masse, c'est-à-dire augmentent leurs effectifs. Mais pour avancer vite, il le sait, il a d'abord besoin de convaincre le chef des armées, c'est-à-dire le président de la République.
Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, et c'est aujourd'hui que se tient le sommet de l'OTAN à Bruxelles avec Joe Biden pour la première fois comme président des États-Unis, qui veut inscrire la Chine comme une menace potentielle pour cette alliance militaire.
Après un bac 2020 entièrement en contrôle continu, le retour des épreuves de l'examen cette année pour l'édition 2021.
Ça commence ce jeudi avec la philo. Les candidats s'apprêtent aussi à se mesurer au grand oral. Virginie Riva, l'expression orale, c'est une faiblesse française ?
Oui, si vous allez aux États-Unis, dès la maternelle, les enfants apprennent à parler à l'oral pour être à l'aise, avoir l'habitude de choisir les bons mots, toutes choses qui nous sont encore bien étrangères dans le système éducatif français, avec des conséquences négatives ensuite pour la réussite des études universitaires, mais aussi de la vie professionnelle. En France, il a donc fallu du temps, la faute à une culture trop académique, comme l'explique Éric Charbonnier de l'OCDE.
Ce qui est très intéressant sur ce grand oral, c'est que les Français, en fait, les élèves français, mais aussi les parents, n'y étaient pas du tout préparés, contrairement à d'autres pays européens qui ont, eux, déjà fait évoluer leur système éducatif, où on parle moins de discipline, mais beaucoup plus de compétences. Et l'oral fait partie des compétences que les élèves doivent maîtriser absolument pour pouvoir poursuivre leurs études après le baccalauréat, mais aussi être plus épanouis aussi dans leur métier, une fois qu'ils auront quitté le monde éducatif.
À terme, l'idée, c'est que la culture du grand oral infuse tout au long du parcours scolaire de l'élève. Depuis 2 ans, est également prévu dès la 3e un cours d'éloquence pour préparer l'épreuve orale du brevet.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Il en est désormais à 19 victoires en Grand Chelem. Novak Djokovic, juste en dessous de Nadal et Federer.
Oui, après son deuxième Roland-Garros hier, le Serbe n'a qu'une envie, Axel May, monter encore un peu plus haut.
Oui, marquer toujours plus l'histoire de son sport, c'est ce qui fait avancer à 34 ans Novak Djokovic. Hier, il est devenu le premier tennisman de l'ère moderne à avoir remporté au moins 2 fois chaque tournoi du Grand Chelem. Même Federer, même Nadal ne l'ont pas fait. Et sitôt sa victoire acquise, le numéro 1 mondial a rappelé qu'il n'était pas rassasié de victoire.
Je voudrais arrêter pas ici. Je voudrais continuer cette année, mais aussi à Roland-Garros, j'espère, à moi. une ou deux fois.
Avec 19 tournois du Grand Chelem, Nole, comme il est surnommé par ses fans, n'est plus qu'à une unité du record codétenu par ses rivaux Federer et Nadal. Pour l'ancienne championne Justine Hénin, il va les dépasser.
Il y a des grandes chances que ce soit lui le plus titré. Après, est-ce qu'il faut les départager? Ils sont tous uniques dans des styles différents et pour des raisons différentes. Donc je pense que tout le monde est toujours un peu en recherche de reconnaissance et peut-être lui un petit peu plus. C'est aussi lui qui a le rapport le plus compliqué avec le public et probablement qu'à chaque titre qu'il va chercher, il aura le sentiment d'être un peu plus aimé.
Et Djokovic a d'ores et déjà annoncé ses objectifs pour le reste de l'année. Wimbledon dans 2 semaines, les JO, puis l'US Open.
Axel May pour Europe 1.
6h37, c'était le journal de François Geffrier sur Europe 1. Europe 1. Et c'est donc le premier sommet de l'OTAN de l'ère Biden. Peut-il redonner vie à l'Alliance Atlantique ? Bonjour Bruno Tertrais.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. On va prendre le temps de décrypter ensemble les enjeux de ce sommet. Installez-vous, à tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1. Bruno Tertrais est l'invité du 5-7. Alors que débute aujourd'hui le sommet de l'OTAN, le premier de l'ère Biden. Avec déjà ces mots, Bruno Tertrais, les mots du président américain. La défense d'un allié attaqué est une obligation sacrée. Voilà ce que dit Joe Biden. C'est le principe de l'OTAN, mais c'était important de le rappeler.
Oui, bien sûr, c'était important de le rappeler. Vous savez, ce sommet va être essentiellement symbolique. C'est un sommet de retrouvailles, un sommet où la photo de famille sera importante. L'important pour Monsieur Biden, bien sûr, c'était de réaffirmer cet engagement solennel de l'Amérique à défendre ses alliés. Le 1 pour tous pour 1 du traité de Washington. Et c'est le premier message et peut-être le plus important de ce sommet.
Qui vient en décalage avec les discours qu'avait pu tenir Donald Trump. Ça veut dire que l'Alliance Atlantique renaît, elle n'est plus en état de mort cérébrale, comme avait pu le dire Emmanuel Macron l'année dernière.
Je crois qu'après la thérapie de choc, on est passé un petit peu à la rééducation, d'une certaine manière. Je ne crois pas du tout qu'Emmanuel Macron refera des déclarations un petit peu tonitruantes de ce type. Mais il y aura quand même une question sur un pays qui pose question à la France et à l'Amérique, c'est la Turquie. Une des raisons pour laquelle Emmanuel Macron s'inquiétait de la solidarité transatlantique, c'est le jeu un peu personnel de Monsieur Erdogan, le président turc. Et il sera très intéressant de voir son comportement pendant ce sommet. Il semble être disons plus calme dans ses déclarations vis-à-vis de ses alliés que ce n'était le cas il y a 6 mois. On verra. En tout cas, c'est peut-être la Turquie qui sera une fois de plus le trublion de l'OTAN.
Pourquoi Joe Biden, j'en reviens à Joe Biden, mais pourquoi peut-il avoir besoin à ce point de l'Europe quand Donald Trump, lui, semblait nous ignorer totalement? C'est uniquement de l'idéologie ou il y a un intérêt stratégique évident à faire alliance avec les Européens?
Pour commencer, il faut quand même rappeler que la défense de l'Europe, c'est un intérêt américain. Et s'il arrivait quoi que ce soit de dramatique à l'Europe, ça serait l'Amérique en serait forcément touchée, ne serait-ce que sur le plan économique. C'est aussi un intérêt américain, tout simplement, à vendre des équipements de défense à l'Europe. On le sait bien. Je crois que donc c'est pas simplement par idéologie. Après, il y a bien sûr aussi une composante, je dirais, politique. À savoir, il est important pour Monsieur Biden, qui va rencontrer dans les tout prochains jours Vladimir Poutine, de montrer qu'il ne représente pas les démocraties occidentales, mais en tout cas, il a derrière lui cette solidarité occidentale vis-à-vis de Poutine. Et puis, il y aura aussi la Chine, bien sûr. Là encore, c'est important pour Joe Biden d'essayer de créer, non pas un front commun, parce qu'on n'est pas dans une logique de confrontation, mais au moins une certaine perception commune du problème chinois. C'est important pour lui, à l'intérieur et à l'extérieur.
Mais justement, là-dessus, est-ce que les Européens sont sur la même ligne? On a vu qu'Emmanuel Macron demande des clarifications sur les objectifs de l'OTAN, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord.
Je suis pas sûr qu'il soit totalement en désaccord. Joe Biden ne cherche pas à enrôler tous les Européens de l'OTAN dans une croisade contre la Chine. En revanche, il y a un sujet, c'est faut-il parler du défi stratégique chinois dans le cadre de l'OTAN ou pas? Est-ce que ça concerne l'OTAN ou pas? Alors vous allez avoir les alliés qui disent non, l'OTAN doit s'occuper surtout de la menace militaire russe, et d'autres qui vont dire pourquoi pas, c'est un peu le lieu où il faut parler des défis stratégiques communs, et la Chine en est indubitablement un, même si ça n'est pas une menace militaire immédiate pour l'Europe.
La Chine, deuxième plus gros budget de défense au monde. C'est ça qui en fait un enjeu.
Non, c'est pas ça qui est enfin un enjeu. Ce sont pas les budgets de défense qui comptent, c'est la manière dont les États utilisent leurs moyens, se comportent sur la scène internationale, se comportent dans leur voisinage, et la Chine est de plus en plus agressive dans son voisinage immédiat. C'est ça qui inquiète, et c'est aussi le fait que la Chine investisse énormément dans les infrastructures européennes, je pense aux télécommunications, je pense aux ports, toutes choses qui peuvent avoir à la fin des conséquences militaires.
Si on regarde les choses dans l'autre sens, on sent qu'Emmanuel Macron, la priorité doit être la Russie. Il l'a encore dit avant-hier, il y a quelques jours, parlant de l'OTAN qui a été conçue pour aller en opposition du pacte de Varsovie. On est au retour à une logique presque de guerre froide. Là-dessus, les Européens ont besoin des États-Unis ?
Oui, certainement, les Européens du centre et de l'Est en particulier ont besoin des États-Unis pour se rassurer d'abord et pour dissuader la Russie. Ensuite, s'il y a logique de guerre froide, je dirais que c'est peut-être plutôt Moscou qui l'a institué plutôt que Washington. En ce qui concerne les interrogations d'Emmanuel Macron, faut constater une certaine constance dans les propos du président. Il n'est fondamentalement pas persuadé que la Russie soit une menace pour l'Europe. En tout cas, c'est ce qu'il semble dire. Il a souvent déclaré que l'OTAN devait peut-être davantage s'occuper de contre-terrorisme, que ce soit sur son voisinage immédiat ou alors peut-être jusqu'au Moyen-Orient, que de la menace russe. Donc il y a une certaine constance dans ses déclarations. C'est vrai qu'il fait partie de ces quelques dirigeants européens qui s'interrogent sur la nature de cette menace russe qui semble plutôt porter à un dialogue avec la Russie, même si force est de constater que depuis 2 ans qu'on dialogue avec la Russie, que la France dialogue avec la Russie, on n'a pas obtenu beaucoup de résultats.
Le premier sommet de l'OTAN de l'ère Biden aujourd'hui. On suivra tout cela. Merci pour ce décryptage ce matin. Bruno Tertrais, politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci à vous, très bonne journée. Merci.
Au revoir.
Europe 1.
Il est 6h46 sur Europe 1. Anissa Mbida pour l'innovation du jour dans quelques secondes.
Europe 1, Sébastien Krebs.
6h49 sur Europe 1, les indicateurs sanitaires toujours dans le vert, moins de patients dans les hôpitaux, moins de malades en réanimation, un peu plus de 2000 hier soir, et nous en sommes à plus de 30 millions de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin. Le nouveau gouvernement israélien approuvé, Benjamin Netanyahou n'est donc plus Premier ministre, il est remplacé par Naftali Bennett, 49 ans, homme de droite devenu millionnaire dans la high-tech. Et puis l'Euro de football, les trois matchs du jour, Écosse-République tchèque à 15h, Pologne-Slovaquie à 18h, Espagne-Suède à 21h avant le choc entre la France et l'Allemagne. Ce sera demain soir. Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour, c'est le meilleur ami de l'homme qui devient mécanique. On ne compte plus les annonces de robots chiens. Au départ, c'était des engins de recherche, des prix exorbitants. Bientôt, quasiment tout le monde pourra en acheter.
Oui, et quand on parle de robots chiens, on pense évidemment au plus célèbre d'entre eux, à Spot, le fameux robot jaune à quatre pattes, sans queue ni tête de Boston Dynamics. Vous avez certainement vu ses vidéos, ouais. Il vous les porte tout seul, il danse, il se fait chahuter à coups de pied. C'est futuriste, c'est un véritable bijou technologique, mais qui coûte quand même la bagatelle de 70 000 euros.
Ah oui, quand
donc
même.
Réservé aux professionnels. Eh bien, il faut savoir qu'il existe des dizaines de modèles similaires, et les deux derniers en date, l'AlphaDog et le Go One, ciblent désormais le grand public avec des prix qui commencent à 2000 euros, donc ça devient beaucoup plus abordable.
Et ces robots chiens, ils font exactement la même chose que le Spot que l'on connaît ?
Quasiment, visuellement, ce sont des clones, ils se déplacent de façon autonome, ils suivent leur maître, arrivent à contourner les obstacles, ils peuvent même faire un salto arrière, donc oui, ils sont aussi impressionnants techniquement. La question, c'est plutôt de savoir à quoi ils vont servir, parce que sur les vidéos de présentation, on en voit un qui court à côté de son maître pendant son jogging en portant une bouteille d'eau. Soit, on peut aussi transporter des courses, mais 5 kilos maximum, donc ça va pas très loin. C'est tout le problème de ces technologies, aussi impressionnantes qu'elles soient, s'il n'y a pas d'usage, ça reste un petit peu gadget, d'autant qu'avec leur look de Terminator, on n'a pas vraiment envie de leur faire des câlins.
Ça n'a absolument rien à voir avec un vrai animal de compagnie. Alors, ce sera moins cher pour les professionnels ?
On verra, mais là encore, les usages les plus évidents seront militaires, déminage, missions de reconnaissance, ce qui va raviver quoi ? Le fantasme des robots tueurs, exactement comme dans la série Black Mirror, où il y a un chien robot qui traque les derniers humains sur Terre.
Ah là là, ça, je ne sais pas si c'est très rassurant tout ça. L'innovation du jour, signé Anissa Mbida. À demain. 6h51, nous allons ouvrir à présent notre revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. partout dans le monde et nous débutons en Angleterre avec vous Anaïs Cordoba. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une des journaux à Londres ?
Alors, dans la presse britannique, ce cliché de la reine radieuse, toute vêtue de rose, qui accueille Joe Biden au château de Windsor. Hier après-midi, cette visite a clôturé le séjour du président au Royaume-Uni. La reine est apparue détendue et heureuse, décrit le Daily Telegraph, qui parle d'une visite sans heurts, contrairement à celle de Donald Trump, qui avait commis la gaffe de marcher devant la reine lors de son passage à Windsor en 2018. Le Daily Mail lui titre sur les louanges du président américain à sa sortie du château. « La reine est si généreuse, elle me rappelle ma maman », a-t-il confié. Le quotidien précise que la mère de Joe Biden, décédée en 2010, a été très influente dans sa vie. Enfin, l'experte royale du site de Sky News décrit « Ce n'était pas une visite d'État avec carrosses et banquets, mais en temps de Covid, une tasse de thé avec la reine reste le cadeau diplomatique ultime. »
Le cadeau diplomatique ultime, la tasse de thé avec la reine. Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. Direction le Japon à présent. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous marque dans les journaux à Tokyo ce matin ?
Les JO de Tokyo, Big Brother. Ici, l'expression revient en boucle sur Twitter. Car par mesure de précaution sanitaire, les milliers de journalistes étrangers qui les couvriront seront géolocalisés via leur smartphone. Et toute sortie en ville leur sera interdite. Ils pourront juste faire des allers-retours entre leur hôtel et les sites où les compétitions se dérouleront. Le journal progressiste Asahi trouve ça exagérément sévère. Mais pour le quotidien nationaliste Sankei, il est tout à fait normal de limiter la liberté de la presse dans un tel contexte sanitaire. Arrivera-t-on vraiment à surveiller autant de gens efficacement ? Le journal conservateur Yomiuri en doute. Quant au Japan Times, il répercute le conseil que les réseaux sociaux donnent aux envoyés spéciaux qui voudraient déjouer les contrôles. Laisser à l'hôtel leur smartphone qui sera géolocalisé et utiliser en ville un autre téléphone, pas déclaré aux autorités, donc qui ne sera pas surveillé.
Bernard Delattre, correspondant Europe 1 à Tokyo. Nous terminons notre tour du monde ce matin en Chine. Avec vous Sébastien Le Belzic, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait les gros titres à Pékin ?
Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, une affluence record au concours d'entrée dans la fonction publique, avec 60 candidats pour un seul poste, c'est du jamais vu dans le pays, comme le raconte le Global Times, qui estime que cet attrait des jeunes chinois pour les postes de fonctionnaires, ils sont 1,5 million cette année à présenter les concours, est le reflet de leur amour pour le pays. Plus prosaïquement, le magazine The Paper explique que les jeunes diplômés chinois sont confrontés à une compétition féroce sur le marché du travail, et que les postes de fonctionnaires apportent de nombreux avantages en termes de couverture médicale ou de retraite. Le retour du bol de riz en fer, comme on disait du temps de Mao, c'est cette sécurité de l'emploi, comme l'explique le China Daily, qui interroge plusieurs candidats, dont un qui estime qu'être fonctionnaire, c'est aussi un atout pour trouver l'âme sœur et se marier.
Sébastien Le Belzic à Pékin pour Europe 1. Merci à vous. Votre revue de presse internationale chaque matin sur Europe 1. Il est 6h54.
Europe 1.
Il est de retour, il s'installe. Vous retrouvez Mathieu Béliard pour le 7-9 dans quelques secondes sur Europe 1. A tout de suite, bon réveil.
Europe 1.
6h58, je vous souhaite une très belle journée. À demain avec toute l'équipe du 5-7 pour démarrer la journée ensemble. Et vous êtes avec Mathieu Béliard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va Sébastien?
Très bien, et vous? Bien reposé?
Oui, très bien reposé. On a eu beau temps, ça a été vous?
Oui,
merci d'avoir assuré l'intérim, d'avoir réveillé nos auditeurs toute la semaine dernière. Sébastien Krebs qu'on retrouve demain matin dès 5h sur Europe 1, lundi 14 juin. Soyez les bienvenus. Le monde a changé, on va vous le raconter. Ce matin, on va se projeter à l'international sur le monde, justement. Le 28e sommet de l'OTAN, c'est le retour de l'Amérique, l'après-Trump. Mais quel rôle pour l'organisation à l'avenir? Nous sommes à Bruxelles ce matin, à 8h15. Également, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, au micro de Sonia Mabrouk. On vient d'écouter Bruno Tertrais avec Sébastien Krebs. Les enjeux économiques aussi, y a-t-il un front anti-Chine à l'OTAN? L'éclairage éco de Nicolas Barré. L'international également ce matin, avec les élections législatives en Algérie hier. Nous sommes à Alger, dans le journal à suivre. Les élections en Iran. À la fin de la semaine, nous sommes à Téhéran également. La fin de règne de Benjamin Netanyahou, vous l'entendrez. Lui, vous entendrez aussi la fête chez ses opposants à Tel Aviv. Quelle crédibilité pour la coalition qui prend le pouvoir en Israël. Ça, c'est le regard international de Vincent Hervet. Et puis enfin, c'est du sport, mais on est évidemment à l'international aussi. Depuis Munich et ses Biergarten, où l'on attend les bleus de pied ferme, nous sommes en Hongrie aussi, où l'on joue dans un stade plein. Ça, c'est assez rare en Europe pour le souligner. Voici quelques éléments du programme. Il est 6h59 et nous retrouvons Laurent Cabrol. C'est l'heure de la météo. Bonjour Laurent.
Ah, salut Mathieu. Oui, c'est une journée ensoleillée, chaude, enfin tout ce que vous voulez, chers amis. Si vous attendiez le beau temps, il est là et bel et bien là. Avec aujourd'hui et demain, deux journées magnifiques. Le ciel sera totalement dégagé. Allez, quelques orages, parce qu'il faut bien chercher quelque chose, quelques orages sur les Pyrénées. Mais partout ailleurs, ce sera un ciel dégagé, clair et surtout un temps calme. Les températures maximales aujourd'hui, 25 à Nice, 26 à Marseille, 29 à Lille, 30 à Colmar, 31 à Paris, Rennes et Clermont-Ferrand, 32 à Limoges et Poitiers, 33 à Lyon, 35 à Toulouse et Cahors et 36 degrés à Alès, à Bergerac ou à Bordeaux. Donc des températures qui sont, bon, faut pas exagérer, hein, sont pas, c'est pas grande chaleur, mais enfin, ce sont des fortes chaleurs pour la saison. Et il fera très beau aujourd'hui pour tout le monde.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.